Cinquième séance, le sacrement de mariage. Les grâces du mariage, naturelles ou sacramentelles. Alors normalement, vous avez tous vu le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Et vous avez été touché par ce petit enfant, par ce jeune homme, à l'autorité naturelle et surnaturelle. Et donc, le cœur même d'un mariage chrétien, et l'un d'entre vous est forcément baptisé, sinon nous n'aurions pas de pouvoir légal sur votre mariage. L'Église catholique, parce que elle vous dit qu'elle est la religion du Dieu révélé, et donc que le vrai créateur, et non pas, je ne sais pas, le serpent à plumes, ou le soleil, ou Zoroastre comme prophète, ou même Mahomet comme prophète, hein, puisque en dehors du dialogue interreligieux, de politesse et de courtoisie, l'Église catholique et les évêques comme les prêtres, un peu moins certains fidèles et peut-être certains prêtres ou certains évêques, pour l'Église catholique, Mahomet n'a pas été inspiré par Dieu. Ce n'est pas un prophète. Il a inventé ce qu'il a dit, ou alors il a été inspiré par des démons. Pourquoi ? Parce qu'il a obstinément nié la divinité de Jésus en disant que c'était une association, que c'était du polythéisme que de dire que Dieu s'est fait homme. C'est un blasphème qu'il se soit uni à une créature, et c'est une horreur en fait. C'est un peu comme si on disait que Hercule avait existé et qu'il était moitié Dieu, moitié homme. Vous voyez ? Ou alors c'est un peu comme si on disait les empereurs romains deviennent des dieux à leur mort. Il y a un terme technique qui est l'apothéose. Eh bien, nous considérons ça comme un blasphème. Et beaucoup de chrétiens ont été martyrisés pour avoir dit qu'il n'y avait pas d'apothéose des empereurs et qu'on n'avait pas à sacrifier des bêtes ou offrir de l'encens devant une statue d'un empereur romain. Vous voyez ? Mais, par contre, nous croyons que Dieu s'est fait homme et que Dieu s'est révélé avec une bonté paternelle, exigeante, certes, hein, puisque à cause de notre capacité à pécher, à faire le mal, à être malicieux et jaloux, il nous a condamnés à mort. C'est-à-dire qu'il avait dit à nos premiers parents, si vous voulez vous-même déterminer le bien et le mal, et si vous vous révoltez contre le bien, contre la bonté, contre l'amour, contre moi, mais contre la bonté et l'amour, vous mourrez de mort. Vous voyez ? C'est une expression biblique de la langue hébraïque de doubler la chose. Les siècles des siècles, c'est de l'hébreu en fait. On traduit dans toutes les langues de nos jours. Mais « secula seculorum » en latin, « des siècles des siècles », »,« pour les siècles des siècles », c'est un hébraïsme. Et donc, dans la Genèse, Dieu avait dit à Adam et Ève, « Vous mourrez de mort si vous voulez vous révolter contre moi. » Non pas que Dieu soit jaloux de son autorité, de sa puissance, mais il est jaloux de la bonté, parce que lorsqu'on se détourne de lui, c'est forcément par malice qu'on se détourne véritablement de lui. Quelqu'un qui est dans l'ignorance de la pleine nature de Dieu, quelqu'un qui est sincère et de bonne foi, mais de nos jours c'est un peu trop utilisé, la sincérité et la bonne foi, et quelqu'un qui est véritablement de bonne foi, et qui véritablement écoute la voix de son intelligence, de ce qu'il comprend, et de ce qu'il croit bien, de ce qu'il croit vrai, la voix de sa conscience, alors il peut, Dieu ne lui fera pas de reproche s'il avance dans la vie en vérité et en bonté, parce qu'il n'a pas une pleine connaissance de la nature de Dieu et de la nature de la vraie religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Le vrai Dieu est objectif, le vrai Dieu est bon. Vous voyez ? Par contre, la malice humaine fait que les fausses religions, les religions inventées par les hommes, finissent toujours par avoir des conséquences mauvaises. Vous voyez ? Et donc actuellement, on est tout à fait habitué à la possibilité d'avorter, alors que l'Église catholique rappelle d'une manière parfois très douce ou de manière parfois un peu brutale que c'est la mort d'un innocent. Alors les femmes qui ont avorté et qui ont été poussées à avorter et qui vivent dans une atmosphère de facilité de l'avortement parfois sont un peu blessées de qu'on leur dise « mais vous avez tué quelqu'un ». Non, c'était un assemblage de cellules, c'était pas encore un enfant, et tout ça. Mais à ce à quoi on leur dit qu'on n'a aucune certitude qu'il n'y ait pas une âme immortelle qui anime cette première cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, puis en 32, et voilà. Et donc, vous arrêtez un processus sacré de vie humaine. Alors certains, professeurs et autres, vont dire « Oui, mais vous avez des médecins de l'Antiquité qui considéraient que l'âme venait au bout d'un certain temps seulement, tout ça. » Nous, on leur dit « Ça, c'est de la science médicale qui varie avec les siècles. Nous, on vous parle d'un processus de vie qui est certain, philosophiquement certain. Si par exemple, vous avortez une maman panda en Chine, vous êtes condamné à mort. C'est-à-dire que on sait très bien que ce petit amas de cellules va faire un panda précieux. Eh bien, l'être humain, c'est la même chose, hein, je vous l'ai déjà dit. Et donc, en conscience actuellement, ben, nous sommes un peu abîmés. Et de la même manière pour la promesse de vie commune, où on pense que le mariage à l'essai et que le concubinage est le critère du mariage, la première étape du mariage. Non, on peut très bien se connaître et s'aimer sans vivre ensemble et prendre la décision à un moment donné de vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble avec promesse transforme complètement votre vie. Parce que lorsqu'on a justement ce souci religieux, cette promesse, elle est fondamentale. Et ce qui fait que, qu'on soit baptisé ou non baptisé, Dieu nous a rappelé, et lors de son incarnation, de son passage sur terre, il nous a dit, vous ne pourrez plus vous séparer. Et c'est vrai pour tout le monde. Ce qui fait que c'est vrai non seulement pour les catholiques, mais pour tous les chrétiens, qu'ils soient protestants ou orthodoxes, et pour les hindous, les bouddhistes, les animistes, pour tout le monde. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que nous croyons que Dieu a mis cette exigence pour accomplir notre nature qui, normalement, est dans l'amour mutuel, la réconciliation et le pardon. Lorsqu'il y a des sujets de séparation. Sauf pathologie grave, sauf délire, comme l'alcoolisme ou la grande violence. Mais ça serait une séparation de corps. Et comme avocat ecclésiastique, j'ai été contacté par un homme qui a eu 3 enfants et 11 ans de mariage. Mais ça va être difficile de remonter au jour du mariage et de l'échange des consentements à l'église pour lui, pour essayer de prouver qu'en fait il y avait un très grave défaut présent au moment de l'échange des consentements qui a fini par la séparation 11 ans plus tard. Et d'autant plus que pour un chef de nullité, il faut quelque chose de grave, un mensonge, une simulation, une maladie psychiatrique ou au moins une névrose très prenante, ou alors une immaturité psychologique très grave. Donc voilà, si vous entendez un jour parler de la nullité des mariages, vous avez déjà parlé, je vous le redis. Et pourquoi? Mais parce que c'est par rapport à la vérité. Et Dieu est un être intelligent qui veut la vérité pour nous. Alors, si nous sommes faibles et nerveux et fatigués, la vérité des paroles non vulgaires et non violentes, voyez, c'est une vérité. Vous êtes dans un carrefour, vous êtes au 15e jour de grève, et puis vous avez les voitures qui, au carrefour, au lieu de respecter le feu rouge et le feu vert, ou de s'arrêter en pensant bien que si c'était vert, mais de s'avancer alors qu'il y a déjà sur le carré du carrefour 10 voitures, il y a la place pour vous. Donc vous vous avancez, mais vous faites un Tetris, et sur votre gauche, la voiture ne peut pas, lorsque ça sera vert pour elle, avancer. Parfois sur le sol, dans le code de la route, vous avez un treillis jaune, un carré, un grand carré jaune sur tout le carrefour. Il est interdit de s'avancer si une voiture est encore sur ce carrefour. Ça serait bien utile de nos jours que les gens connaissent leur code de la route, parce qu'actuellement vous avez des embouteillages, et plus particulièrement à place de la Concorde, avec la rue de Rivoli qui est réduite à une voie, et puis l'arrivée du pont Alexandre, ou du pont de l'Assemblée nationale, c'est délirant. C'est absolument délirant. Et là, vous êtes là, et vous voyez une personne qui s'engage sur le carrefour et qui vous ferme la porte, alors que vous avez devant vous une rue de l'autre côté du carrefour qui est vide. Et vous êtes là, et vous attendez 20 minutes, 30 minutes de plus. Un carrefour où il y avait aussi les tramways, j'ai attendu hier 30 minutes sans bouger, sans faire 10 cm. Et tout le monde était là et plus personne ne bougeait. Alors vous avez un camion de pompiers qui était à 30 mètres, qui était lui aussi coincé dans l'embouteillage. Deux pompiers sont descendus du camion et ont fait la circulation. C'est-à-dire qu'ils sont mis devant les voitures pour permettre le déblocage de la situation qui était délirant. Mais personne ne voulait accepter la priorité. Eh bien, vous voyez, dans ces cas-là, vous savez que vous devez être maître de votre véhicule, vous ne devez pas tamponner celui qui est devant, vous ne devez pas sortir et frapper les personnes. Vous ne devez pas, même si vous êtes tout seul au volant, dire « pauvre connard !» débile, hein, ou d'autres mots qui sont interdits. Enfin, maintenant il y a eu une modération dans les stades de foot. Vous savez, il y a eu une polémique sur les insultes dans les stades de foot, hein. On voulait empêcher les Marseillais, ou c'est les Parisiens, enculé, va, non, ça c'était homophobe, et donc l'arbitre, il arrêtait le match. Mais comme il y en avait 500 qui disaient ça à haute voix et à tue-tête, il y a la Fédération Française de Football qui a dit on arrête, ça va pas. Et donc, il n'y aura plus de match. Et bien la loi naturelle sur la violence, sur les insultes, sur l'énervement au volant, vous savez bien qu'un sage, sans être bouddhiste, un homme, une femme qui se maîtrise au volant est patient. Ça ne sert à quoi de taper sur le volant? Ça ne sert à quoi de crier? Vous avez perdu vos clés. Ça fait 10 minutes que vous les cherchez. Ça fait 20 minutes que vous les cherchez. Mais c'est indispensable parce que là, si vous partez, vous claquez la porte, vous n'avez que cette clé. Il y en a l'autre trousseau, tout un, il faut partir avec la clé. Vous ne pouvez pas partir de l'appartement sans la clé. Vous avez un rendez-vous, vous avez votre travail, vous avez quelque chose. Et vous devenez fou, parce que vous l'aviez posé quelque part, mais en évidence, enfin c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui l'a mangé, elle est tombée. Vous regardez par terre, tout ça, enfin c'est effrayant. Eh bien, si vous êtes un homme raisonnable, si vous êtes une femme raisonnable, vous cherchez de manière méthodique, vous ne vous énervez pas, vous n'élevez pas la voix. Parce que ça ne fait pas venir la clé. Quand vous criez, voyez-vous, c'est pas comme un chien, la clé ne va pas venir vers vous. Vous voyez ? Ça ne sert à rien. La colère ne sert à rien. Est-ce que vous faites des gestes de colère ? Est-ce que vous trépignez ? Est-ce que vous frappez ? Est-ce que vous élevez la voix ? C'est totalement inutile. Alors voyez-vous, ça fait partie de la morale. Et ça fait partie de la religion. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de cerveau et de neurones. C'est votre âme, c'est votre esprit. Et lorsqu'on est religieux, on parle à Dieu et on lui demande de la force, on lui demande des grâces, on lui demande des dons qui vont nous aider alors que nous sommes nous-mêmes conscients de la morale minimum. C'est l'origine de la prière. La prière a quatre fins. Et les grandes grâces sont ce qu'on appelle les sacrements. Mais les quatre causes de la prière et de l'attention de Dieu qui nous écoute et qui nous répond, c'est de reconnaître qu'il existe et de lui dire « Vous existez, tu existes, tu es puissant, tu es bon. » Reconnaître que quelqu'un existe, c'est la première des choses. Un bébé, il reconnaît bien que, de toute façon, il s'en moque de savoir. Il n'a pas la conscience parfaite. Mais il crie parce qu'il sait bien qu'il y a des personnes autour de lui qui vont lui donner à manger, qui vont le soigner, qui vont s'occuper de lui. Il n'est pas athée ou agnostique de la présence de ses parents. Je suis là, non, non. Je vais mourir de faim, mes parents n'existent pas. J'ai faim, mais je n'attends de personne la nourriture. Voilà. Ben, on n'est pas assez intelligent pour raisonner comme ça à cet âge-là. Vous voyez ? On crie et la nourriture vient. Et quand on grandit, on commence à raisonner et on se dit « Oh bon, ben, oui. » Si j'ai de la nourriture, c'est parce que je fais des efforts, tout ça, mais ça vient du hasard et du temps. Si le blé existe, si les fruits existent, si les viandes existent, ah, mais attention, il y en a qui considèrent que la viande, on n'en a jamais mangé, et que les lions et les tigres sont carnivores par mauvaise volonté, voyez. Si on observe la dentition des lions et des tigres, à mon avis, c'est pas pour couper de l'herbe. Et que c'est, à mon avis, c'est par nature qu'ils sont carnivores. Je dis ça comme ça, hein. Et nous-mêmes, est-ce que vraiment on a des dents de vache au point qu'on malaxe, on écrase l'herbe pour la digérer ensuite dans un estomac tout à fait spécial, hein? C'est ce qu'on appelle les herbivores et les ruminants. Nous n'avons pas de dents de ruminants. Donc si vous êtes végane, mais sans vouloir vous vexer, il y a quelque chose qui est de l'ordre de du souci de ne pas manger de viande et de ne pas faire souffrir un animal au moment où vous le mangez ou vous le tuez pour le préparer. Mais si vous voulez, c'est un scrupule. Dans la Sainte Écriture, Dieu ne nous a jamais dit de ne pas manger d'animaux. Au contraire, vous avez des repas, vous avez des... Voilà. Si à votre repas de mariage, vous voulez être végane, vous pouvez très bien le souhaiter. Mais si vous voulez mettre un peu de poulet, il faut savoir qu'à un moment donné, vous avez une gentille poule comme ça qui est là, et puis on l'a tuée pour avoir du poulet.
Si Jésus mangeait de la viande ou pas ?
Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il était invité et qu'il n'était pas, comment dire, pas difficile. On lui reprochait même de trop manger, d'être trop invité et de manger avec tout le monde. Des juifs observants, des pêcheurs et des non-juifs. Parce que le repas, c'est la première des politesses. Partager un repas avec quelqu'un, c'est la première des politesses. La politesse minimum, c'est bonjour. Et la deuxième politesse, c'est de pouvoir manger avec quelqu'un. C'est très important. Les animaux mangent ce qu'ils ont devant le nez, je vous l'ai déjà dit. Les êtres intelligents parlent à l'occasion d'un repas. Il n'y a que nous à le faire. Est-ce que c'est avec le temps, l'évolutionnisme et tout ? Je pense pas. Je pense que c'est notre nature. Nature spirituelle. Et donc, voyez-vous, je vous avais fait de l'histoire sainte pour vous sensibiliser au fait qu'il y a eu des miracles dans le monde entier, et ce n'est pas des colonisateurs qui ont répandu la religion chrétienne, mais c'est bien des missionnaires, des hommes, des femmes, qui ont donné la foi en l'incarnation d'un Dieu qui a aimé la nature humaine en naissant d'une femme. Et cette religion, elle a conquis tous les pays, sauf persécution systématique. Actuellement, en Chine, vous auriez bien plus de chrétiens s'il n'y avait pas une persécution systématique. Au Japon, vous auriez eu plus de chrétiens s'il n'y avait pas eu des exécutions systématiques. Le shogun tuait toutes les autres religions non shinto. Mais, si vous voulez, ensuite, maintenant que l'évangile a été prêché à toutes les créatures, comme l'avaient prophétisé les évangiles, arrive maintenant l'apostasie, comme l'avaient annoncé le Christ, et saint Paul, et saint Pierre, et saint Jacques. Et si vous voulez, saint Jean dans l'Apocalypse. Maintenant, si vous voulez, l'être humain, il est devant ses responsabilités par rapport au bien et au mal. Et donc, le sacrement de mariage a cette particularité par rapport au but de la prière, c'est on reconnaît l'existence de Dieu, au moins l'un des deux, mais l'autre doit avoir une honnêteté naturelle par rapport à la réalité du mariage. Fidélité, unité, indissolubilité et ouverture à la vie. Je suis fidèle à un homme, à une femme. Je ne veux pas un deuxième homme ou une deuxième femme auquel je serai fidèle. Parce que la fidélité ne suffit pas sans l'unité, vous voyez. Je peux très bien être fidèle à deux femmes. Je prends un engagement de fidélité à mes deux femmes. Et parce que je suis marié deux fois, je suis polygame. Fidélité et unité, c'est-à-dire que l'être humain est fait pour aimer une seule personne. Sinon, c'est source de jalousie et de discorde. Ensuite, vous avez l'indissolubilité, c'est-à-dire que c'est jusqu'à la mort. Mais cette réalité, par exemple, a reconquis tout le peuple turc. Sachez que les Turcs sont musulmans et que ça fait très longtemps qu'ils sont monogames. Ils ont perdu la polygamie par le couple. Vous voyez ? Ensuite, vous avez l'ouverture à la vie, et ça c'est de nos jours le plus difficile, puisque nous avons une mentalité, non seulement pour sauver la planète, mais aussi, nous avons trouvé un confort matériel et une certaine prospérité à ne pas multiplier nos enfants par la contraception chimique ou plastique chez l'homme. De nos jours, on essaye de trouver des contraceptions chimiques pour l'homme, qui le rendent stérile pendant le dernier essai, c'est une piqûre qu'on donne à un homme et il est stérile pendant une dizaine d'années, 10-12 ans. À mon avis, au bout de 10-12 ans, je ne sais pas s'il sera à nouveau fécond, le bonhomme, hein, parce que ça doit être une bombe nucléaire, ce qu'on lui met, pour que ses spermatozoïdes soient complètement morts. Voilà. Et en ce qui concerne les femmes, c'est la même chose, ce sont des bombes nucléaires hormonales. Alors du coup, apparaît avec le vegan et le bio et l'écolo, des femmes qui vont retrouver, si vous voulez, les méthodes naturelles, mais à fond les ballons, pour pas utiliser de la chimie, mais qui vont avoir un cahier tous les jours, toutes les heures, prendre leur température, le machin, tout observer pour être bien sûr que... Et le problème des méthodes naturelles, c'est que ça peut passer. Mais si vous voulez, le bon Dieu vous dit, ayez confiance. Oui. En tout cas, la première fin, c'est la louange, c'est la reconnaissance que Dieu a parlé et qu'il existe. La deuxième fin, c'est le remerciement. C'est-à-dire que vous reconnaissez que quelqu'un existe et ensuite vous reconnaissez qu'il vous apporte du bien. C'est la deuxième réaction d'une personne. Je reconnais que la personne qui est devant moi existe et qu'est-ce qu'elle m'apporte? Et elle m'apporte quelque chose, alors je la remercie. Je lui rends verbalement les grâces qu'elle m'a données, les dons qu'elle m'a faits. On remercie ses parents, on honore ses parents parce que on n'est pas conscient que pendant des années, ils nous ont lavés et nourris et vêtus pendant au moins 5 à 7 ans. Et en général, vers 8 ans encore. Il y a peu d'enfants actuellement à 10 ans qui partent pour pêcher du poisson ou avec un arc et des flèches, prendre quelques lapins pour manger tout seul. Et donc, on remercie nos parents. Ensuite, on veut que nos parents meurent pour avoir leur héritage. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez ? On ne peut pas toujours avoir des biens et des grâces, des dons des autres. Il faut les remercier et à un moment donné, leur rendre en s'occupant d'eux. Et ce n'est pas bien d'euthanasier ses parents. Alors même s'ils commencent à baver, à plus vous reconnaître et à trembler sur un fauteuil, eh bien ce n'est pas bien. Il faut essayer de les soigner avec beaucoup de patience. Parce que quand vous baviez et que vous étiez un tube digestif toutes les 4 heures, ils ne se sont pas lassés. Ah oui, mais ça a duré que 2 ou 3 ans, tandis que là, ma mère, elle a Alzheimer depuis 10 ans. On pourrait bien quand même, par miséricorde et bonté, la libérer de cette fatigue. Eh bien non. Non. C'est difficile, hein, mais lorsqu'on prétend avoir cette morale venant de Dieu, on doit y être fidèle pour sa propre famille. Voyez. Comme disait Jésus aux Juifs observants, vous imposez aux autres des fardeaux que vous ne touchez même pas du doigt. Voyez. Parce que vous aviez des grands Juifs pratiquants qui abandonnaient leurs parents. Voyez. Mais qui disaient aux autres de ne pas abandonner leurs parents. Et c'était une réalité à l'époque. C'était drôle, hein. Vous aviez des grands, si vous voulez, notables de paroisse, entre guillemets, qui faisaient des leçons aux autres et qui eux-mêmes ne les appliquaient pas de manière vraiment forte. Et le Christ demande une cohérence totale entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Dieu. La troisième fin de la prière, c'est de demander pardon. Lorsque on reconnaît dépendre d'un être qui nous aime, qu'on le remercie, mais qu'ensuite on le trahit quelque peu. Vous voyez ? Qu'on en profite. C'est la pénitence. Alors imaginez la relation dans un couple. Vous vous levez le matin et vous vous dites « Oh ! Mais je suis marié, elle est là, elle existe. » Oui. Bon. Deux, merci d'être à mes côtés, de m'aider, d'être associé dans notre amour mutuel. Oh, je reconnais mes torts. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'ai été paresseux, j'ai été méprisant, j'ai été maladroit. Bien ça, c'est vis-à-vis de Dieu aussi. Que croyez-vous ? Que vous êtes seul au monde ? Et un moine ou un homme célibataire, il doit avoir une relation à Dieu. Et c'est cette reconnaissance. Quand on est en couple, on est aidé. Parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui va nous rappeler qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il existe, qu'on le remercie et qu'on lui demande pardon des fautes. Et la quatrième intention entre deux êtres, c'est de lui demander des choses en plus. C'est la prière de demande. Et la prière de louange et d'adoration et de reconnaissance d'existence, vous avez la prière de remerciement, vous avez la prière de demande de pardon et de reconnaître ses torts. Et Jésus nous a demandé d'avoir confiance dans le témoin qu'est un prêtre, un serviteur de Dieu, pour exprimer nos péchés et nos torts. Quand la foi s'est amenuisée, mais qu'est-ce qui s'est passé? On le dit à des psychologues, à son médecin traitant en général, à un psychologue ou un psychiatre, ou au pire à un psychanalyste qui vous le fait payer d'écouter vos problèmes. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que des médecins viennent nous voir en disant mais vous les confessez plus ou quoi? Moi, je passe un quart d'heure, 20 minutes à écouter leur misère, leur malheur, leurs problèmes. C'est pas moi, c'est plutôt physiologique. Je sais, un bon médecin écoute aussi, parce que il y a des maladies qui sont dues à des problèmes, à des tristesses et autres, qui sont psychosomatiques et qui peuvent avoir de véritables conséquences. Enfin, à un moment donné, voilà. D'où le métier de psychologue et le métier de psychiatre et l'escroquerie de la psychanalyse. Bon, il y a des psychanalystes qui sont des psychologues quasiment et qui peuvent être de bons psychologues. Mais j'ai une dent contre la psychanalyse. Voilà. Je mourrai avec, sans doute. Et donc, ensuite, vous avez la prière de demande. C'est-à-dire que non seulement Dieu vous a donné la vie, vous a donné vos joies et vos bonheurs dans votre vie, mais vous en voulez plus. Par exemple, vous avez un métier, mais vous voudriez avoir un avancement. Alors, au bout d'un certain temps, vous allez lui demander d'avoir un échelon de plus, d'avoir une responsabilité de plus. Alors, vous aurez peut-être un peu honte, parce que si vous gagnez correctement votre vie avec ce que vous avez dans un premier temps, vouloir passer de, je sais pas, de N plus 2 à N plus 3, enfin je sais pas, en utilisant des termes contemporains. Mais il peut y avoir une juste ambition. Il peut y avoir aussi une tristesse à ce que nos qualités ne soient pas reconnues. Vous avez par exemple un contremaître dans une usine qui voudrait devenir cadre. Par recrutement interne. Vous voyez ? Avec le temps. Il dit, ah oui, mais vous n'avez pas tel diplôme. Enfin, oui, mais j'ai autant de compétences que celui qui a ce diplôme. Avec le temps, avec l'expérience, avec le... Mais en France, c'est diplôme, diplôme, diplôme. Et aux États-Unis, même sans diplôme, si vous prouvez que vous pouvez être un chef ou avoir des responsabilités, on passe sur le diplôme, ça, sans problème. Parce que les anglo-saxons, c'est l'efficacité. Alors, si on est moins terre-à-terre, quand on prie, on reconnaît que Dieu existe, on reconnaît ce qu'il nous donne, on lui demande pardon et on lui demande de l'aide. Quand on aime quelqu'un, on reconnaît qu'il existe, on le remercie pour son amour et sa bienveillance, on lui demande pardon et on reconnaît ses torts et on lui demande de nous aider. Eh bien, figurez-vous que donc, c'est la vérité. Eh bien, le mariage, c'est un engagement solennel entre un homme et une femme, sur ces quatre points. Et quand vous avez été évangélisé sur la vraie nature du Créateur, que vous avez quitté la superstition païenne ou l'indifférence ou l'insouciance contemporaine et moderne et que vous vous dites « Mais Dieu a peut-être parlé. » Moi, j'ai un ami qui était totalement agnostique, pas athée, mais agnostique. « Je sais pas. Je sais pas qui est Dieu. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas d'où ça vient. » Mais bon, peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Il a été baptisé à 40 ans. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement logique. Mais la logique ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas. Il faut ensuite quelque chose en plus. il faut vouloir à un moment donné. Il dit, quand même, j'aimerais parler à ce Dieu. Et puis, il n'a pas pu ne pas parler. Nous, on parle, et moi, si je ne crois pas en Dieu, vu la manière dont je parle tout le temps, il y a un problème. Et si vous voulez, lui, il s'est dit, Dieu a forcément pris contact avec ses créatures. Et s'il a pris contact avec ses créatures, il a forcément organisé le lien et la relation entre lui et ses créatures. Il y a forcément une religion dont il est l'auteur. Et pas seulement l'imagination humaine. Vous voyez ? Voilà. Nous, en Gaule, on avait le chamanisme, les druides et des chamans, hein, avec les arbres, avec les pierres, avec les éléments. Je ne sais pas si vous avez... Je peux vous spolier la Reine des Neiges 2. Oui, qui aurait de la peine si je... Allez-vous voir la Reine des Neiges 2?
Ah, mais je peux la faire sortir.
Oui. Eh bien, c'est complètement païen. Impressionnant. Sans compter Maléfique. Hein. Alors là, Maléfique, c'est extraordinaire. Là, Maléfique 2, c'est les démons sont nos amis. Et les fourmis aussi. Et donc, c'est tous ceux qui ont des cornes et des ailes et qui sont des images démoniaques sont plus gentils que les hommes. Mais la Reine des Neiges, c'est les quatre éléments, les esprits, l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, l'esprit du vent et l'esprit du feu, les quatre éléments, hein, distingués sur des siècles et des siècles, même chez les Grecs, hein, et les philosophes grecs, Démocrite. Et la Reine des Neiges, en fait, elle est possédée par un cinquième esprit, le cinquième élément, hein, c'est... Luc Besson est panthéiste, hein, je vous l'avais déjà dit, je crois. Et donc, elle est le cinquième élément. La Reine des Neiges est le cinquième élément. Les quatre esprits se sont fondus et ont fait un cinquième esprit en elle. Et elle apporte la paix et l'équilibre à la force. Et donc, George Lucas, lui, a essayé de faire du panthéisme, mais il s'est viandé complètement et il a inventé les bactéries midi-chloriennes et tout. C'était de la bouillie. Et vous spoliez la guerre des étoiles, c'est plus compliqué quand même, non? Enfin, disons que la force, à force de dire que c'est une énergie, non. Il y a des prophéties, il y a un élu, il y a des choses qui s'accomplissent, il y a le bien, le mal, il y a des pouvoirs. C'est pas une entité inintelligente et sans volonté, la force. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour le couple humain? Mais il a fait le mariage. Pour tout individu, il a fait le baptême. Le baptême explicite, lorsqu'on connaît la religion chrétienne, et le baptême implicite, lorsqu'on suit sa conscience. C'est-à-dire, je veux le bien et je veux éviter le mal. Et je reconnais le mal que j'ai fait. Je meurs au mal, je suis noyé dans l'eau. Et je meurs, comme Jésus est mort. Et je revis pour le bien et pour l'amour. Je sors de l'eau. L'eau cesse de couler. Baptême par immersion, ou baptême par la tête simplement, dans les pays froids. Eh bien, c'est un signe du don de l'amour de Dieu et du pardon du péché humain, du péché originel. C'est le baptême, la plongée dans l'eau. Sacrement de baptême. Ensuite, vous avez le sacrement de confirmation. On vous met de l'huile. L'huile, c'est... Quel est le signe de Dieu qui vient vers vous? Le baptême, c'est vous mourrez spirituellement, et vous revivez spirituellement, par l'eau. La confirmation, c'est que vous êtes nourri comme l'huile qui nourrit la peau, Et Dieu pénètre dans votre corps et dans votre âme à travers cette huile pour renforcer votre cœur, votre intelligence et votre volonté par les dons du Saint-Esprit. Dons de sagesse, la connaissance des choses fines, dons d'intelligence, de comprendre ce qui nous entoure, dons de science, d'aller dans les détails de ce qui nous entoure, don de force, d'avoir de la patience et de la résistance par rapport à ce qui est pénible, difficile, don de piété, qui est la justice, de rendre à chacun ce qui lui est dû, d'être bienveillant, don de crainte, c'est-à-dire d'avoir peur de faire du mal. Ce sont les sept dons du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est le sacrement de confirmation. Et on demande pour le mariage de l'avoir. Alors en France, on n'est pas très très dur là-dessus, mais en Italie ou en Espagne, on vous demande d'être confirmé avant de vous marier, pour avoir cette force d'âme par rapport à la vie de couple.